à l'intérieur des frontières d'un État, éventuellement d'un groupe d'États comme l'Union européenne. Et puis il y a des endroits quand même comme la COP, justement pour le moment, où on essaye de mettre un peu tout le monde d'accord et on voit à quel point c'est difficile. Et donc ça m'intéresse d'entendre le philosophe politique qui est Philippe Van Parijs sur ces questions-là, parce que là on est en train de discuter d'enjeux qui sont quelque part des enjeux de justice sociale à l'échelle du monde, de soutenabilité d'un modèle à l'échelle du monde, mais dans un système où c'est chaque État dans son coin qui doit un peu y penser. Et souvent on voit bien que ce qui se passe, c'est que chaque État se dit qu'il va quand même pouvoir s'en sortir un petit peu mieux que le voisin ou que celui qui est plus loin. Certains se disant peut-être que l'immigration est une opportunité pour soutenir leur modèle de vieillissement, mais sans penser aux conséquences alors pour les pays d'où viendrait cette immigration. Parce que c'est pas ça aussi l'enjeu. C'est que gérer cette question-là, ça va imposer à un moment donné de réfléchir à une échelle globale qu'on n'a pas encore vraiment les institutions pour.
Non. Mais je crois que le changement climatique vraiment crée un défi politique colossal, une difficulté politique colossale pour ceux qui nous dirigent, en raison de la combinaison de trois éléments. Premier, c'est simplement la complexité technique de l'affaire, c'est-à-dire on a eu un bel été, hein, bien chaud, pourquoi est-ce qu'on devrait faire du souci, hein? Donc, en fait, on doit faire du souci en raison de ces raisonnements compliqués du GIEC, etc., qui nous
expliquent
que 1,5 degré, ça va avoir, pourrait avoir tel et tel impact là, ici, etc. Bon, il faut y croire, quoi. Hein. Il faut y croire à tout ça. Alors on y croit, hein, parce que hein, donc on croit au système scientifico-universitaire qui est à l'intégrité, à la compétence des personnes qui nous disent, hein, c'est pas de la blague, ce truc-là. Mais ça doit passer jusqu'à l'électeur. Hein. Et l'électeur doit être en nombre suffisant, convaincu qu'effectivement, il y a de quoi se faire du souci. Premier problème. Deuxième problème, c'est que tout ce qu'on peut faire au niveau de notre petite Belgique, hein, nous autres, on en profitera un petit peu, mais enfin, ce qu'on peut faire, c'est l'essentiel des bénéficiaires, ils se trouvent ailleurs. Si on faisait rien du tout et que les autres font ce qu'ils doivent faire, le problème serait réglé. Et si nous autres, on faisait rien du tout et que les autres font rien non plus, c'est de toute façon foutu. Donc on a intérêt à ne rien faire du tout et à ne pas supporter le coût, un coût qui rapporterait surtout à d'autres que nous. Et puis le troisième problème, le plus fondamental, c'est que même la démocratie la meilleure du monde, ce n'est jamais que la dictature de la génération actuelle. Et donc, pour toutes les décisions qui doivent être prises maintenant, qui sont coûteuses pour la génération actuelle, la plupart des bénéficiaires ne sont pas encore nés. Et donc, il y a la combinaison de ces trois choses, et donc on a cette pauvre politique qui doivent essayer de prendre des décisions et puis encore être réélu après pour dire, écoutez, chers électeurs, voilà, vous allez devoir vous serrer la ceinture, vous faire, etc. C'est extrêmement difficile et donc souvent, ils craquent.
Pensez long terme, pensez global, on comprend que c'est un exercice extrêmement complexe face à des ressources planétaires qui sont quand même limitées. Hein, ça, c'est une réalité. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose de regarder cette petite séquence.
Y a-t-il de la place pour 10 milliards d'habitants sur Terre? Y a-t-il suffisamment de ressources pour nourrir 10 milliards de terriens? A-t-on assez d'eau? Est-ce que la pollution émise, les gaz à effet de serre et toutes les perturbations de l'écosystème peuvent être encaissées par la planète? En 2022, le WWF a indiqué que nous avions consommé l'ensemble des réserves du grenier pour une année, le 21 juillet. C'est le fameux jour du dépassement. Et il arrive chaque année un peu plus tôt. Selon la méthode de calcul de l'ONG, au rythme où nous vivons aujourd'hui, et avec 8 milliards d'habitants, il faudrait 3 quarts de planète en plus pour régénérer ce que l'humanité consomme. Prenons l'eau. Ressource vitale par excellence, en de nombreux points du globe, les nappes phréatiques s'épuisent. Selon les Nations Unies, avant la fin de la décennie, 2/3 de la population mondiale vivra en situation de stress hydrique. Stress hydrique très élevé pour des pays comme l'Inde ou le Mexique. On aura donc besoin de plus en plus de terres cultivables, mais dans les faits, l'érosion, la déforestation, le surpâturage font qu'aujourd'hui, de moins en moins de terres sont cultivables. Certains donnent l'alerte sur les stocks de poissons, d'autres sur les ressources minières. Les métaux indispensables à notre développement technologique ne sont pas une ressource inépuisable. Et il n'y a pas que les limites en termes de ressources naturelles. Il y a aussi les limites écologiques. Peut-être avez-vous déjà aperçu ce schéma. 9 limites, établies par un groupe international de scientifiques en 2009. 9 limites pour vivre durablement dans un écosystème sûr. Érosion de la biodiversité, changement d'utilisation des sols, changement climatique, acidification des océans. Sur les 9 limites, on en a déjà dépassé 6, la dernière étant le cycle de l'eau douce. Bref, la question est simple. Si on est plus nombreux, court-on à notre extinction ?
La question des pénuries, elle est évidemment essentielle, Olivier de Schutter. Elle sera déterminante sur l'évolution démographique d'une part, mais sur l'avenir de la planète en tant que telle, sa santé.
Oui, c'est tout à fait déterminant. Et le problème aujourd'hui, c'est que cela se combine avec des pouvoirs d'achat très différents de région en région, des inégalités mondiales qui restent très fortes. Et pourquoi ceci est-il important? C'est parce que des inégalités très fortes amènent une utilisation très inefficiente des ressources. Nous avons dans les pays de l'OCDE un pouvoir d'achat élevé qui nous permet par exemple d'utiliser des terres très importantes au Brésil, en Indonésie, pour produire du soja ou de l'huile de palme pour satisfaire nos propres besoins. Et les populations locales, elles, avec un pouvoir d'achat beaucoup plus faible, ne peuvent pas utiliser ces mêmes ressources pour satisfaire leurs propres besoins. Et dans une économie mondialisée, où on met aux enchères, au fond, l'accès à ces ressources et l'utilisation qui en sera faite, la pénurie des ressources peut devenir un problème beaucoup plus rapidement que dans un monde plus égalitaire. Donc, il faut faire de la lutte contre les inégalités un outil pour aller vers une utilisation plus efficiente des ressources, et il faut généraliser les dispositifs, qu'ils soient technologiques ou qu'ils relèvent des innovations sociales qui permettent de réduire la ponction des ressources et l'utilisation tout à fait insoutenable que nous en faisons, effectivement.
La question des ressources, la question des émissions aussi, Géraldine Thierry.
Et des inégalités, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans les pays... Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que l'empreinte carbone dans les pays riches était beaucoup plus importante que dans les pays pauvres. Mais si on regarde la distribution de cette empreinte carbone au sein des pays, on voit qu'elle est beaucoup plus concentrée à un niveau élevé dans les pays riches. En revanche, dans les pays du sud global, on voit que la distribution des empreintes carbone peut aller de 1 à 100 entre les personnes les plus riches au sein du pays et celles les plus pauvres. Ça veut dire que là aussi, il y a un énorme travail de résorption des inégalités qui est à fournir au sein des pays du sud, à l'intérieur desquels les différences de responsabilité au niveau des émissions sont extrêmement disparates.
Mmh. Est-ce que plus d'humains sur la Terre, ça a d'office un impact en termes de biodiversité, en termes d'impact sur les autres êtres vivants, Bruno Mascoli?
Mais de nouveau, je pense que le danger quand on parle de plus d'humains, c'est qu'on fait une moyenne comme s'il y avait un humain moyen. Il n'y a pas d'humain moyen, personne n'est un humain moyen. Et donc on doit réfléchir à l'impact différencié, à la fois à l'échelle des pays, on en a parlé, à l'intérieur même des pays. Moi, il y a un chiffre qui me frappe, les 10% les plus riches du monde capturent la moitié des revenus, possèdent les 3/4 du patrimoine mondial et émettent la moitié des émissions de CO2. Donc vous voyez bien que c'est ça le danger quand on dit le 8 milliards, est-ce que c'est un risque 8 milliards? Mais ça dépend de qui on parle en fait. Et donc effectivement, il faut prendre alors les questions secteur après secteur. Le réchauffement climatique, on a parlé de la concentration extrême des émissions de CO2. La biodiversité, alors là il y a plein de liens à faire avec quel type d'agriculture est-ce qu'on veut défendre? Est-ce que moi, quand je consomme de la viande en Belgique, je participe aussi à la déforestation dans les pays du Sud, etc. Donc je crois qu'il faut prendre secteur par secteur et éviter ce piège du nombre en fait, qui démultiplie un peu les enjeux et travailler plutôt sur les inégalités. C'est une clé de lecture qui est pour moi plus porteuse.
Ceci dit, si on veut faire le lien avec ce qu'on a évoqué plus tôt, Géraldine Thierry, on voit aussi que l'Eldorado du mode de vie à l'occidental, comme chez nous en Europe ou en Amérique du Nord, reste quand même vu par une bonne partie de la population comme l'objectif à atteindre quelque part, véhiculé aussi par les médias qui connectent tout ça au niveau mondial aujourd'hui. Et que on comprend bien dans tout ce que vous venez de dire ici que si tout le monde aspire à vivre et voulait vivre demain comme nous vivons ici et comme les plus riches d'entre nous vivent ici, c'est absolument intenable. C'est ça quand même l'équation extrêmement difficile à gérer aujourd'hui, c'est de se dire oui, il faut faire progresser tout le monde quelque part vers une forme de point d'équilibre, mais ce qu'on voit comme une espèce d'idéal à atteindre, c'est justement le mode de vie qui nous mettrait tous en difficulté.
Oui, c'est tout à fait insoutenable et c'est corroboré même quand quantitativement, on parlait, donc pour rebondir sur ce que Bruno disait, c'est pas tant la population en tant que nombre global qui est le problème, que la disparité des responsabilités, mais on le voit aussi si on le regarde, les différents facteurs qui qui contribue à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, on voit que les deux facteurs principaux sont certes la population, et encore pas les dernières années, mais sur une période historique 1970-2010, là, effectivement, la population est un facteur important. Mais l'autre facteur, c'est le PIB par tête. Et quand je dis PIB par tête, je ne parle pas encore de sa distribution, mais de son niveau déjà au niveau mondial. Or, on sait, et on l'a déjà évoqué, que de ce côté-là, il importe vraiment de s'orienter vers plus de sobriété, là où nous avons les moyens de le faire. Et donc, il ne s'agit pas d'aller demander aux personnes qui sont déjà dans des situations de grande précarité d'elles-mêmes appliquer une forme de sobriété. Mais ce devoir d'exemplarité, comme vous le souleviez très bien, malheureusement, il est géré à des échelles locales ou régionales ou nationales, là où le problème est global. Et avec des enjeux soulevés par Philippe Van Parijs, des enjeux politiques importants, qui désincite les décideurs à oser poser ce genre de mesures importantes de sobriété, bien qu'elles commencent à entrer dans le débat public depuis quelques temps.
Je ne ressors pas hyper optimiste de ce débat tel qu'il se déroule jusqu'ici. On comprend quand même l'ampleur du défi, Philippe Van Parijs. On est face à un défi peut-être plus grand que ce qu'on n'a jamais connu jusqu'ici.
Je crois qu'on a vraiment un très grand défi et que Mathias Jouard-Tripon me faisait remarquer quelque chose à quoi je n'avais pas pensé, c'est que en fait notre problème la pénurie de ressources naturelles m'a été la surabondance de ressources naturelles. Ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, par rapport au rapport à l'époque du rapport Meadows, etc., on disait on va épuiser les ressources fossiles, etc., à court terme, etc. En fait, en raison de nouvelles découvertes, en raison d'innovations technologiques, en fait, on n'a pas ressenti ce manque, et donc ni les marchés ni les gouvernements n'ont été amenés à augmenter les prix de telle manière qu'on réduise notre consommation de ces ressources. Mais ce qu'on ne voyait pas venir, c'était, à ce moment-là, et ce qu'on a vu venir graduellement, c'était l'effet cumulatif de l'utilisation de ces ressources fossiles et donc de la saturation de notre atmosphère et donc la création d'un problème qui ne se serait pas créé, le problème du changement climatique qui ne se serait pas créé. On n'aurait pas eu cette ampleur si on avait été confronté à une véritable pénurie des ressources fossiles.
Olivier, je crois que pendant longtemps, le débat sur cette question a été dominé par une équation très simple. L'impact environnemental que nous avons dépend de trois facteurs. La population, les niveaux de consommation et les technologies. Et pendant longtemps, on a dit croissance démographique peut être un problème, soyons attentifs à ça. La consommation peut être un problème. Et ça peut être compensé cependant par des technologies vertes et propres qui permettent de réduire notre impact environnemental. Et ce qu'on oublie dans cette équation, c'est que les comportements peuvent être modifiés, les normes sociales peuvent évoluer. L'équation ne doit plus être IPAT, elle vient de Paul Ehrlich et John Holdren dans les années 60. Il faut ajouter un élément qui est le comportement, les normes sociales et les innovations sociales que cela accompagne. Donc je crois que la situation est effectivement critique et que si l'on ne change pas notre manière d'organiser la société, notre manière de concevoir le bien-être, ça va être effectivement très difficile de résoudre cette équation qui nous est présentée.
C'est là que se trouve la marge. Vous voulez réagir?
Mais juste pour que vous ne terminiez pas totalement déprimé à la fin de l'émission. Là, je reprends une citation qu'Olivier cite souvent dans ses conférences, d'une étude qui montre que quand on a une minorité agissante qui grossit, et qui montre l'exemple de changement justement de normes sociales, à partir d'un certain seuil, elle peut faire basculer et amener à elle la majorité des personnes qui portent ce changement social. Et je pense que ce type de phénomène sociologique qui s'observe, on peut espérer que petit à petit, il puisse nous permettre et permettre d'atteindre ce point de bascule dans les changements des modes de vie, dans l'avènement de nouvelles normes sociales plus sobres et moins dispendieuses.
Ouais, d'autant qu'on n'est plus dans un débat qui est uniquement théorique. Hein. Aujourd'hui, on ressent tous quand même ces évolutions par toute une série de phénomènes. J'aimerais à présent revenir à la question initiale de ce débat, mais peut-être à un niveau plus individuel. Est-ce que dans ce contexte, il faut arrêter de faire des enfants? On a posé la question dans la rue à quelques jeunes, notamment, sur le campus de l'ULB. On écoute la réponse.
8 milliards.
8 milliards, je pense.
8 milliards.
C'est 8 milliards, non? Quelque chose comme ça, je pense.
7-8. ça me fait pas peur pour avoir des enfants. Ça, c'est égoïstement. J'ai envie d'avoir des enfants.
Oui, ça m'en fait, mais ça me fait pas peur.
Oui, voilà.
Déjà, j'ai pas trop envie d'en avoir de base. Et en plus de ça, avec le contexte écologique, ça me donne pas envie.
Ce serait raisonnable, je pense, de faire des enfants, mais pas trop, entre guillemets. Donc, juste afin de remplacer les deux parents, à peu près.
C'est plus la peur de dans quelle société ils vont vivre et est-ce que ce sera bien pour eux.
Écologique.
Vous voyez, quand même, je veux dire, c'est un peu le bordel dans le monde au niveau climatique et trucs comme ça. C'est compliqué d'élever des enfants dans des conditions pareilles. Et en plus de ça, si c'est pour leur donner une terre qui est déjà foutue, ça sert à rien.
On a déjà usé toutes nos ressources de la terre, donc là on est en train de puiser dans... on consomme déjà à crédit en fait.
Moi, en soi, quand je vois mes parents qui parlent maintenant, je vois qu'ils sont un peu inquiets pour nous parce qu'ils se disent bah, « Merde, qu'est-ce qui va se passer plus tard pour nos enfants ?» Donc faire des enfants et se dire « On les laisse dans un pétrin », ça fait pas, enfin, je pense que ça fait pas plaisir.
Même si l'avenir s'annonce bien sombre, du point de vue de l'écologie, je trouve que n'importe qui peut vivre, enfin, on peut essayer d'être positif, c'est pas ça qui empêche d'être heureux et d'avoir des enfants, quoi.
Bon, y a un contexte, hein, clairement, qui fait réfléchir les jeunes générations. Il y a aussi des chiffres qui circulent sur l'impact qu'on a sur le réchauffement climatique, par exemple. Quand on a un enfant en moins, il y a un chiffre qui a été fortement médiatisé, c'est celui-ci. 60 tonnes d'équivalent CO2 par an et par enfant. Quand on a un enfant en moins, selon ce chiffre et cette étude-là, il serait beaucoup plus efficace, si on veut avoir un impact individuel, beaucoup plus efficace d'avoir un enfant en moins que de prendre moins l'avion ou que de devenir végétarien, par exemple. Alors, j'ai soumis cela à l'auteur de ce livre, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» C'est Emmanuel Pont, il est ingénieur, il a mené une longue enquête et ce chiffre, pour lui, il est totalement surestimé. On l'écoute.
C'est un chiffre gigantesque qui a l'air vraiment d'écraser tout le reste. Alors, c'est un chiffre d'eau tellement gigantesque que c'est 6 fois l'empreinte carbone du français moyen. Alors, je pense que le belge moyen doit pas être très très loin. Comment est-ce que faire un enfant peut faire les émissions de 6 personnes? Et ben, en fait, ce calcul n'a absolument rien à voir avec des émissions à l'instant T ou avec une consommation, une production, etc. C'est un impact futur de votre descendance future et hypothétique jusqu'à la fin des temps, et avec des hypothèses très pessimistes. Donc, en pratique, ça n'a aucun sens de le comparer avec arrêter de prendre l'avion, devenir végétarien, ou ce genre de choses qui, eux, sont des choses qui ne sont pas hypothétiques, qui existent vraiment, et qui ont un effet sur le réchauffement actuel, et non pas le réchauffement dans des siècles ou autres, qui est une autre question. Moi, j'ai proposé un contre-calcul pour se demander quel serait l'impact, et avec un certain nombre de réflexions. Notamment, les gens qui vont renoncer à des enfants pour cette raison, c'est pas n'importe qui. C'est déjà des familles plutôt écolo qui ont, on suppose, un impact plutôt faible ou qui sont en train de le baisser. Et donc, ce calcul est donc pas une responsabilité à long terme qui est l'impact sur le moment, c'est à peu près autour d'une tonne par an. Donc une tonne par an, ça vous dit quelle sera la consommation d'un bébé, parce qu'en fait on se rend compte que les enfants consomment beaucoup moins que les adultes, et après chaque année on considère qu'il aura un rythme de baisse qui est à peu près le rythme qu'il faudrait pour tenir l'accord de Paris, parce que on considère que c'est une famille écolo, donc il fait déjà un certain nombre d'efforts. Donc une tonne par an, c'est pas entièrement négligeable, et il n'y aura jamais d'impact nul, parce que il faudra vivre d'une manière ou d'une autre, l'important, c'est la manière, le compromis qu'on a avec l'environnement, mais c'est quelque chose qui n'écrase pas du tout tout le reste. Et donc ça me semble à la fois pas absurde comme choix personnel de se dire « je renonce à un enfant pour son empreinte écologique », même si elle n'est pas énorme, mais c'est pas un chiffre qui est assez important pour justifier de contraindre les gens ou de les pousser ou de changer les normes sociales.
D'ailleurs, pour l'anecdote, Emmanuel Pont vient d'être papa. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas autour de la table ce soir. Donc, il a répondu, hein, lui, à la question. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants? C'est quand même interpellant, Paula Gobi, hein, de voir à quel point cette question vit aujourd'hui chez les jeunes générations. Alors, il y a encore peu d'études qui mesurent l'impact que ça va avoir sur le taux de fécondité dans les prochaines années. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, non?
Oui, donc en Europe, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se posent la question de très très tôt, même sans être en couple. Beaucoup d'étudiantes à moi en thèse me disent déjà « moi, je ne veux pas faire d'enfant », et sûre d'elle.
En mentionnant l'impact écologique comme argument.
Oui, surtout pour ça. Et je pense qu'il y a un changement, il y a beaucoup moins de jeunes qui veulent prendre l'avion, donc qui adaptent leur consommation. Donc ça c'est clair. Maintenant, quand on pose la question faut-il faire des enfants ou pas, on parle pas de nous vraiment, on parle des Africains. Et donc là je pense qu'il y a un petit problème de justice entre pays, parce que justement l'accroissement de la population est un facteur et un moteur de croissance. Donc c'est une autre question.
Mmh. Arnaud, vous avez rencontré le Premier ministre hier assez longuement. Vous lui avez aussi posé cette même question. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants?
Ben oui, je l'ai rencontré pour autre chose. C'était pour le podcast du tournant. Mais donc, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants? Ou est-ce qu'il faut dire aux Belges que ce ne serait plus une bonne idée aujourd'hui de faire des enfants? Je propose d'écouter très brièvement sa réponse.
Ce ne sera pas moi qui va décider ce que vous faites dans votre chambre à coucher quand même. Ce ne sera pas moi qui va décider si vous pouvez... vous aimez les uns les autres et faire un enfant basé là-dessus. Je pense que c'est notre sentiment le plus intime, le plus même biologique, si on regarde scientifiquement, qu'on peut avoir. Il y a déjà tellement de gens qui nous disent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Le choix d'un couple, ou le choix d'une personne même, de dire, ben voilà, moi je veux avoir un enfant, c'est pas la politique de décider, mais construisons un monde dans lequel nos enfants peuvent grandir dans toutes nos possibilités. Mais de grâce, n'allons pas dans cette direction-là quand même.
C'est assez clair. Hein. Ben aujourd'hui, il y a quand même assez peu de monde, même à l'échelle de la planète, pour dire qu'il faut mettre en place des politiques coercitives. Est-ce que, Bruno Masquelier, en tant que démographe, vous pensez